Vous écoutez, on lit pour vous.
Cinq leçons de Toto, le mâle alpha. Un texte de Fabrice Ville, paru le 18 février 2025 dans la presse. Pardonnez mon absence des derniers mois. Quatre jours après l'élection de Donald Trump, mon amoureuse a donné naissance à notre premier bébé. C'est un petit garçon, né juste avant la génération bêta. Ce qui en fait un mâle alpha. En bon haïtien, mon père l'a surnommé Toto. Pendant que beaucoup de gens affirmaient ces derniers temps que le monde est dans la merde, j'avais les mains occupées à essuyer celles de Toto. Ainsi, en cette ère aux allures apocalyptiques, qui m'aurait en principe invité à m'inspirer d'analystes réputés, voici cinq leçons que m'a enseigné l'un de mes seuls interlocuteurs depuis novembre 2024, cet être qui ne mesure pas le temps et ne ment jamais. Premièrement, Toto m'a fait comprendre que face à lui, j'étais bon dans à peu près rien. Quelle posture adopter alors ? Celle de la découverte. Toto me fait découvrir tous les jours quelque chose de nouveau, me laissant savoir que les accomplissements de la veille ne garantissent rien. Bienvenue à l'incertitude. Deuxièmement, Toto n'a même pas encore terminé son premier trimestre que je tiens pour acquis un fait qui était loin d'être évident il n'y a pas si longtemps. Il est vivant. N'était pourtant pas garanti jusqu'avant qu'il naisse. Puis, durant de nombreuses nuits après sa naissance, j'ai traversé ce que plusieurs parents traversent. Quand j'entendais sa respiration chaotique, je craignais qu'il soit en train de mourir. Et je m'inquiétais aussi lorsqu'il dormait immobile et silencieux. Combien de fois ai-je dû me rassurer en le touchant de l'index? À ce jour, Toto, un bébé en pleine santé, fait tout de même le moindre geste avec l'intensité du bonhomme qui crie son désir de vivre. Le tout me rappelle que même les catastrophes les plus terribles ne changent pas une chose. On bénéficie encore du cadeau de la vie. À mon avis, reconnaître ce miracle nous invite à l'honorer. Troisièmement, j'exagère à peine en disant que les minutes de temps libre auparavant à ma disposition se sont évaporées. Ce changement me frappe particulièrement lorsque je suis en présence de Toto. Il manifeste son insatisfaction dès que je me distrais. Avec lui, il n'existe plus d'avant, de plus tard, d'ailleurs, mais seulement l'ici et maintenant. Prendre soin de lui constitue donc une pratique de pleine conscience qui n'a rien à envier aux exercices courants en la matière. Je remarque d'ailleurs comment cela m'aide à retrouver une qualité de présence que j'ai depuis longtemps abandonnée, notamment à cause des technologies qui nous éloignent des relations de qualité et nous poussent à nous mettre en scène. Si un humain, fraîchement venu au monde, est capable de sentir notre perte d'attention, on devrait se demander quel est l'effet de ce problème sur l'ensemble de nos relations. Quatrièmement, je ne pensais pas que je pourrais éprouver un jour un sentiment de détestation viscérale envers Toto. C'est pourtant ce que j'ai instinctivement et brièvement ressenti certaines fois où son mignon visage s'est crispé d'une apparente hostilité, où ses yeux, habituellement aveugle et fuyant, m'ont fixé d'un regard maléfique et que sa bouche a émis un son strident à rendre sourd. Évidemment, mon amour pour lui a chaque fois rapidement repris le dessus. Comme bien des mâles alpha de tous âges, Toto n'a pas encore appris à réguler ses émotions ni à exprimer ses besoins autrement que par les cris. J'ai vite compris qu'il m'invitait à cerner, derrière son expression désagréable, une souffrance à laquelle répondre. N'est-ce pas la même compassion qui est de mise entre adultes, même face au comportement qui suscite chez nous la plus grande réprobation? Cinquièmement, Hormis les moments où il m'assaille afin que je lui vienne en aide, Toto ne porte presque aucune attention à moi. Bien sûr, le développement de l'enfant changera la donne. Toutefois, il m'est apparu clair que la parentalité ne devait ni ne pouvait reposer sur l'attente de recevoir de mon enfant de l'amour en contrepartie de celui qu'on lui donne. J'y avais réfléchi avant, mais mon engagement est devenu plus incarné aujourd'hui. Mon amour envers Toto se doit d'être inconditionnel, malgré l'absence de gratitude de sa part. Bien entendu, l'amour parental est unique et je n'en tirerai pas de réflexion applicable pour tout le monde, mais j'ai néanmoins pensé au fait que nos sociétés accordent beaucoup plus de valeur à ce que nous recevons qu'à ce que nous donnons. Je me permets de rêver. De quoi aurait l'air notre économie si l'action de donner sans attente était mise de l'avant? Le dernier constat que je tire concerne notre vie de famille. Sans même insister sur la montagne que représente le postpartum pour une mère, je remarque que mon amoureuse et moi survivons à peine aux premiers mois, malgré le soutien de nos familles respectives, de nos amis et d'une doula. Évidemment, tous les bébés ne sont pas les mêmes, mais je me demande tout de même, comment font les parents seuls? Les couples sans réseau. Quelles sont les limites de la famille nucléaire? Nos modes de vie atomisés ont-ils sabordé le bien-être des enfants et le tissu communautaire qui devrait l'entourer? C'était 5 leçons de Toto, le mâle alpha, un texte de Fabrice Ville, paru le 18 février 2025 dans La Presse.
Les festivals québécois sont déjà fragilisés par la guerre commerciale. Un texte de Philippe Renaud, paru le 11 février 2025 dans Le Devoir. L'incertitude liée aux menaces de tarifs douaniers du président américain plombe le cours du dollar canadien et avec lui, les espoirs d'une saison des festivals de musique plus confortable pour leurs organisateurs. La chute de près de 10 % de la valeur du UR par rapport au dollar américain entraîne une hausse du coût des cachets des artistes internationaux, souvent en haut de l'affiche. Les festivals accusent donc un autre dur coup après la hausse généralisée des frais de production d'événements depuis la pandémie. En 2025, ça passe ou ça casse, pour le milieu festivalier québécois, croit Patrick Kearney, directeur général du regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, le Refrain. Le 2 février 2025, peu après l'annonce anticipée des tarifs douaniers qu'entend imposer le gouvernement américain de Donald Trump, le cours du dollar canadien face à la devise états-unienne a chuté à son plus bas niveau en près de 2 décennies. En septembre 2024, il se négociait autour de 74 cents américains. Il y a 2 semaines, il chutait à moins de 68 cents américains. Il s'échangeait à environ 70 cents américains lundi 10 février 2025. Or, de très nombreux artistes internationaux invités à se produire sur les scènes du Québec, qu'ils viennent des États-Unis ou d'Europe, demandent à être payés en dollars américains. Prenons un musicien avec qui un producteur d'événements a signé un contrat il y a 6 mois. Explique M. Kearney. Pour confirmer la signature, le producteur a fait à l'artiste un premier versement de son cachet il y a 3 mois. Là, son deuxième versement va lui coûter beaucoup plus cher que prévu. Une hausse de près de 10 % des cachets, d'un coup, c'est énorme. J'insiste, c'est devenu problématique de payer les artistes internationaux en dollars américains en raison de la volatilité des déclarations de Donald Trump sur les liens entre les États-Unis et ses partenaires économiques. Il faudra donc s'attendre à des affiches musicales de festivals un peu moins garnis qu'autrefois, prévient-il. À titre de directeur général du festival Santa Teresa, qui se tient en mai, Patrick Kearney annonce qu'on n'aura pas d'artistes américains dans notre programmation cette année. On devra réduire l'offre qui sera davantage québécoise avec plus d'artistes de la relève, dit-il. Depuis ses débuts, le festival MUTEC, qui présentera sa 26e édition du 20 au 24 août 2025, a toujours fait une part belle aux musiciens d'ailleurs, ce qui lui a permis au fil des ans de s'établir comme l'un des phares de la création électronique internationale. En toute transparence, nous, depuis la pandémie, on a dû réduire de 30% le nombre de performances dans notre programmation pour nous adapter aux effets de l'inflation, puisque le financement public et privé ne suit pas, regrette son directeur général et artistique Alain Mongeau. Exemple, le volet Play du festival MUTEC, un laboratoire de création audiovisuelle numérique plus expérimental, qui fait partie aussi de la mission du festival par sa prise de risque et son potentiel de renforcer le dialogue avec la communauté locale d'artistes, on ne l'a pas présenté l'an dernier et on ne le présentera pas non plus cette année parce qu'on n'en a plus les moyens. Sous pression financière, la taille de MUTEC, comme d'autres événements au Québec, se réduit progressivement. Jusqu'à présent, personne ne s'en est plaint. Mais une question qui se pose, jusqu'à quel point pouvons-nous couper dans la programmation sans franchir le seuil critique où l'attractivité du festival en souffrira? Demande M. Mongeau. Les grands festivals aussi inquiets. Martin Roy, président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux, REMI, qui porte la voix de grands événements comme le Festival Western de Saint-Tite, le Festival international de jazz de Montréal, FIJM, Oshiaga ou encore le Festival d'été de Québec, lequel vient d'ailleurs d'annoncer une hausse de 15 $ du prix de ses laissez-passer, pose une autre question qui suscite de l'inquiétude dans le milieu des festivals québécois. Le dollar canadien est passé de 75 cents américains à 69 cents américains, mais va-t-il encore baisser? C'est sûr que ça va devenir extrêmement préoccupant. J'avais comparé la pandémie à un tremblement de terre et l'inflation qui a suivi, plus sournoise, à un tsunami, ajoute le PDG du REMI. Nos membres nous disent qu'il en coûte de 30% à 40% plus cher qu'en 2019 pour tenir un événement de l'ampleur de ceux d'il y a 5 ans. On espère que la poussée inflationniste s'est calmée. Quoi qu'on ne sache pas ce qui va se passer avec les Américains. Ce qui nous préoccupe, c'est l'impact sur la valeur du dollar canadien qui rendra extrêmement difficile pour les festivals de présenter des artistes qui demandent à être payés en devises américaines. Les organisateurs de festivals feront alors face à deux choix, ajoute Martin Roy. Ou bien on rationalise en changeant certains aspects de la programmation, moins de scènes sur le site, un calendrier plus court, comme l'ont fait les organisateurs des Franco et du FIJM en 2024, soit on cherche plus de revenus de toutes sortes de façons, ce qui inclut plus de financement de la part des subventionnaires, des commanditaires et de nos revenus autonomes, comme le prix des billets ou des boissons vendues sur le site. Comment les organisations devront-elles s'adapter à la situation dans ces circonstances? Ce sont de vraies questions que tout le monde devra se poser. Patrick Kearney met aujourd'hui en garde les subventionnaires. Tout ça va nous péter dans la face. De façon artificielle, on a l'impression que la situation n'est pas si mauvaise parce que ça ne paraît pas trop encore. Mais en coulisses, c'est autre chose. Telle organisation qui a dû abolir un poste, telle scène est retirée de la programmation. Et quand tu coupes dans la programmation, ce sont souvent les artistes de la relève qui écopent. En ce qui a trait au financement public et à la recherche de commanditaires, le milieu des festivals est déjà fragilisé. Je pense qu'il y en a qui ne passeront pas à travers, conclut-il. C'était « Les festivals québécois sont déjà fragilisés par la guerre commerciale », un texte de Philippe Renaud, paru le 11 février 2025 dans Le Devoir.
Ça va bien aller. Prise 2. Un texte de François-William Grotteau, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. En fin de semaine, je me suis rappelé les arcs-en-ciel et les fameux « ça va bien aller » accrochés aux portes et aux fenêtres de nos maisons, nos écoles, nos hôpitaux et nos entreprises. Maintenant que la pandémie est derrière nous, force est d'admettre que tout ne s'est pas passé aussi bien qu'on l'espérait. Tout dépend de la façon dont on voit le verre d'eau. Est-il à moitié vide ou à moitié plein? C'est souvent une question de perspective. C'est notre filtre personnel qui nous fait trancher d'un bord ou de l'autre. Notre personnalité, notre vécu, notre manière d'appréhender le monde influencent la lecture que nous faisons des faits et des données probantes. Il faut aussi considérer le fait que ceux qui colligent ces données et réalisent des études à partir de ces dernières le font à travers leur propre filtre de perception. Rien n'est jamais totalement objectif. Cela ne signifie pas pour autant que c'est faux ou biaisé. Il y a une différence entre inventer un fait et interpréter un événement ou des données sous un angle différent. C'est même précisément ce qui alimente les débats et les échanges constructifs, qui sont eux-mêmes le moteur de nos démocraties. En tout cas, c'était vrai jusqu'à tout récemment. Quand j'ai fait mes débuts en politique, on disait qu'il n'était pas nécessaire de tout dire, mais qu'il ne fallait jamais mentir. Autrement dit, qu'il fallait contrôler le message sans jamais inventer d'informations. Je fais référence ici, oui, à la fameuse cassette. Je n'ai jamais été un fervent adepte de cet exercice que j'avais en horreur. J'ai cédé à la tentation d'y recourir une seule fois, et ce fut l'un de mes pires moments en politique. C'était lors du lancement d'un hommage au grand Antonio, pour ceux qui s'en souviennent. Une vraie honte. Cette époque me semble aujourd'hui bien lointaine. Me voilà pris au piège de la nostalgie. Je m'apprête à dire, comme tant d'autres avant moi, que c'était mieux avant. Mais encore une fois, tout est une question de perspective. De quelle époque parle-t-on au juste? Les références varient selon le lieu où l'on vit, notre parcours, nos expériences. Chacun façonne son propre âge d'or en fonction de ses souvenirs. Rien n'est jamais totalement objectif, mais les faits restent les faits. Du moins, c'était encore le cas jusqu'à récemment. Aujourd'hui, en politique, la véracité ne semble plus poser de problème à certains. Il suffit pour ceux-là de dire une chose pour qu'elle soit vraie, quitte à déformer délibérément les faits. En repensant aux arcs-en-ciel affichés dans les fenêtres, une réflexion m'est venue sur le rôle de l'État. J'aime dire qu'au Québec, nous avons sorti l'Église pour la remplacer par le gouvernement. Depuis la Révolution tranquille des années 1960, nous vivons sous un régime que l'on peut qualifier d'État-providence ou de social-démocratie. On pourrait débattre longuement de son état actuel, mais si l'on se compare, force est d'admettre que le Québec demeure une société où l'interventionnisme gouvernemental est fort, même sous des gouvernements de centre-droit. N'en déplaise à certains, c'est en partie ce qui définit l'identité québécoise et sa distinction, cette volonté de mettre en commun les ressources pour offrir une chance plus égale à tous. Personnellement, j'y tiens. Je ne me souviens plus qui a dit ça, mais une personne mentionnait récemment que ce qui fait fonctionner un système, c'est la confiance que nous avons que nos voisins en respecteront les règles. Par exemple, lorsqu'on traverse une rue, on ne s'arrête pas pour vérifier si la voiture qui approche fera son arrêt au feu rouge. On a confiance que la personne au volant le fera. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance s'effrite, lorsque nous commençons à croire que notre voisin ne respectera plus les règles? Le doute s'installe, la peur grandit et le système tout entier se dérègle. Imaginez maintenant qu'un groupe entier de la société se mette à croire que ses voisins ne respectent plus les principes fondamentaux du vivre ensemble. La fracture devient inévitable. C'est précisément là que sont rendues nos démocraties occidentales. La polarisation et l'essor des théories du complot les plus absurdes sont les symptômes d'une perte de confiance envers les autres. Ce sentiment nourrit un besoin de contrôle, une quête d'ordre dans un monde perçu comme chaotique, menaçant. On cherche alors un leader providentiel qui promet de rétablir l'autorité, de ramener les bonnes valeurs et de restaurer cette confiance égarée. Ce qui s'effrite alors, c'est l'esprit du collectif. Je ne suis pas sociologue et je ne prétendrai pas l'être, mais il est difficile de ne pas voir dans ce repli le symptôme d'un individualisme exacerbé. Et si c'était précisément cet électrochoc, la menace d'une guerre économique de Donald Trump, qu'il nous fallait pour raviver cette solidarité essentielle au bon fonctionnement du système? Face à l'adversité, l'humain innove, crée et se dépasse. C'est exactement là où nous en sommes. Au-delà de la crise climatique, nous traversons une multitude de crises existentielles. N'est-ce pas le moment idéal pour se réinventer plutôt que de recycler de vieilles recettes? Je n'ai pas de solution miracle, mais j'ai envie de participer à la construction d'un monde meilleur, optimiste, un monde qui rêve encore. C'était « Ça va bien aller », prise 2, un texte de François-William Croteau paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.
Douleurs articulaires, comprendre, soulager et prévenir. Un texte de Joanne Martin, paru le 22 novembre 2024 dans Virage. Phénomène complexe, la douleur représente une expérience très personnelle. Lorsqu'elle touche les articulations, qui vieillissent comme tout le reste, les causes peuvent être multiples et les solutions doivent tenir compte de divers facteurs. Heureusement, il est possible d'améliorer sa condition en appliquant certains conseils de base. Précisons immédiatement qu'il n'existe pas une douleur articulaire. Celle-ci a différentes origines. De nombreuses maladies peuvent affecter les articulations, rappelle Philippe de Grandpré, pharmacien et président de la Société québécoise de la douleur, SQD. Dans la tête des gens, c'est de l'arthrose. Mais la douleur peut aussi être causée par un vaccin, une infection, un virus, ou être l'un des effets secondaires d'un traitement ou d'un médicament. Évaluer les symptômes. Si les douleurs articulaires sont souvent associées à des conditions rhumatismales, arthrite, arthrose, il est essentiel d'en évaluer les symptômes. En cas de douleur légère à modérée, il est possible de pratiquer l'auto-soin à domicile. Cependant, devant de l'enflure, de la rougeur, de la chaleur, une impossibilité d'utiliser l'articulation, une douleur sévère ou de la fièvre, il est recommandé de consulter un professionnel, car ces signes pourraient indiquer une condition plus grave. Dans les articulations, plusieurs éléments peuvent causer de la douleur, ligaments, bourses, tendons, et chaque cause nécessite un traitement spécifique, ajoute le président de la SQD. Dès que nous avons un os vis-à-vis un autre os et que ça bouge, c'est une articulation. N'oublions pas que le cou et le bas du dos en contiennent aussi. Recourir à une médication appropriée. Deux grandes familles de médicaments peuvent soulager les douleurs articulaires, ceux pris par voie orale et ceux appliqués sur la peau. Une mise en garde s'impose toutefois, quel que soit le produit utilisé, il faut avoir des attentes réalistes et ne pas croire au miracle, souligne le pharmacien. Même les médicaments en vente libre peuvent comporter des contre-indications. Parmi les options orales, l'acétaminophène est souvent recommandé comme première ligne, étant généralement bien toléré. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène et le naproxène, peuvent être efficaces, mais présentent des risques accrus pour les personnes âgées. Pour les options topiques, le Voltaren Emulgel est souvent efficace pour les douleurs aux genoux, doigts et poignets. Parmi les autres produits prouvés, on retrouve le Flexoflex à base de capsaïcine, Les crèmes de type Mioflex, appartenant au groupe des salicylates, sont moins documentées pour les douleurs articulaires. Dans tous les cas, il est judicieux de vérifier avec un pharmacien si le produit est approprié pour soi, conseille M. de Grandpré. Un million de facteurs influencent la perception de la douleur. Parmi eux, la gestion des émotions est hyper importante. Il est possible d'améliorer sa condition en modifiant sa façon d'interagir avec son entourage pour se sentir mieux compris, puis en enlevant le sentiment de culpabilité associé à ses pertes fonctionnelles ou à ses deuils. Quand on permet à des gens d'aller dans l'acceptation et l'adaptation, ils se sentent souvent mieux, dit Philippe de Grandpré, pharmacien et président de la Société québécoise de la douleur. Maintenir une activité physique régulière. Tant que la douleur n'est pas trop intense, il est conseillé de continuer à utiliser l'articulation. La pratique d'une activité physique régulière est l'un des meilleurs moyens de prévenir l'aggravation des douleurs articulaires. En sollicitant fréquemment l'articulation, celle-ci tend à se renforcer et à se stabiliser, limitant ainsi la progression de la condition. Il est important d'intégrer des exercices cardiovasculaires, mais aussi de la musculation. Chez les personnes âgées, ce volet est souvent négligé. Pourtant, le renforcement musculaire est crucial pour maintenir la force physique et réduire les douleurs. Des plateformes gratuites, comme Move 50+, proposent des exercices adaptés. En cas de besoin, un physiothérapeute ou un kinésiologue peut accompagner les démarches. Améliorer ses autres habitudes de vie. Adopter une alimentation équilibrée, perdre du poids si nécessaire et dormir suffisamment influencent positivement les douleurs musculo-squelettiques. Par exemple, l'obésité favorise l'arthrose et provoque une inflammation qui accentue la sensibilité à la douleur. Pour réussir ces changements, il ne faut pas hésiter à solliciter un soutien professionnel. C'était « Douleurs articulaires, comprendre, soulager et prévenir », un texte de Joanne Martin, paru le 22 novembre 2024, dans Virage.